vous remercie beaucoup de votre introduction. Je vous remercie aussi de votre exposé, puisque vous introduisez au mien de trois façons, à la fois par l'argument, puisqu'il s'agira ici de réfléchir aux droits de l'ennemi, par la méthode, assez neutre, pour reprendre les termes de Jacobs, et parce que vous me donnez la conclusion, ça sera que par rapport à la doctrine de l'administration Bush de l'ennemi combattant illégal, celle du président Obama est une doctrine inavouée au régime spécifique. Alors, je souhaiterais introduire ces remarques de trois façons. Premièrement, en revenant sur la narration usuelle, c'est la suivante, elle a le mérite de la simplicité. Elle se décompose sur les 20 dernières années en trois périodes. D'une part, celle de l'administration Clinton, qui maintient le droit commun avec de légères dérogations au droit pénal et au droit civil. Ensuite, la doctrine de la période Bush, avec l'émergence d'un droit dérogatoire, d'abord faiblement dérogatoire, et là on parle des roundups de novembre-décembre 2001, qui ont donné lieu à la dernière décision de la Cour suprême, il y a deux semaines, en matière de terrorisme, et à certains procès, je pense en particulier au procès de Lindt et au procès de Moussaoui. Et dans un second temps, durant l'administration Bush, une radicalisation qui va créer littéralement une doctrine du l'ennemi combattant illégal en matière de qualification, de contestation de sa qualification, de modalité de sa détention et de propension au secret. Et enfin, sous Obama, on reviendrait, et cela a été clamé haut et fort dans les quatre ordres exécutifs de janvier, du 20 à 21 janvier 2001, à la normale, c'est-à-dire au droit commun. Dans un mémo introduit dans le DC Circuit en mars 2009, le ministère de la Justice a même répudié explicitement le terme d'ennemi combattant illégal. D'une certaine manière, l'épisode est clos la doctrine du droit de l'ennemi combattant se comporterait comme beaucoup de phénomènes physiques selon une distribution de type gaussien, normal, exceptionnel, normal. La réalité est très différente, et si on peut dire aujourd'hui cette réalité, c'est pour trois raisons. D'une part, parce qu'on peut accéder à un très grand nombre de textes. D'autre part, parce que les dernières semaines ont permis, tant du point de vue contentieux que du point de vue des annonces de l'exécutif, qui a évidemment fait grand cas de ces innovations, d'avoir beaucoup de nouvelles informations. Et enfin, parce qu'on a une déclassification d'un certain nombre d'éléments. Obama, le 21 janvier 2009, a annulé l'Executive Orders 13233, qui limitait l'accès aux archives des anciens présidents et qui avait pris le président Bush en novembre 2001. Et d'autre part, un certain nombre de procédures dites FOIA, Freedom of Information Act, qui oblige à déclassifier un certain nombre de documents, ont conduit à un contentieux qui nous a permis d'accéder, notamment il y a deux mois, à cinq mémos jusque-là classé confidentiel défense, et qui donne une lumière tout à fait nouvelle sur les arguments, et notamment doctrinaux, à l'intérieur de du ministère de la Justice et de la Maison-Blanche. Et ces trois éléments nouveaux donnent une image doublement nouvelle. D'une part, il y a moins de ruptures entre la période Clinton et Bush. Ça, d'une certaine façon, la 9-11 Commission nous l'avait déjà montré. Mais il y a aussi beaucoup moins de différences à ce jour, entre l'administration Bush et l'administration Obama sur le dossier de Guantanamo, mais surtout sur le dossier de Bagram. C'est cette thèse relativement radicale, mais je crois juste, pour ça que je vous la présente, que je souhaiterais défendre aujourd'hui. Deuxième remarque, pour dire qu'il faut se défaire de cette image fausse, il faut aussi prendre la mesure de la récurrence de cette question de l'ennemi combattant illégal. C'est une question qui est apparue dès la codification du droit des conflits armés. Les membres des forces armées régulières au service de leurs autorités ont acquis d'emblée, en vertu du principe de réciprocité, une immunité face aux poursuites pour les actes commis au cours des hostilités. Ça, c'est sans difficulté. En revanche, l'immunité des civils ayant pris les armes contre des forces armées ennemies a d'emblée été une question controversée. Les instruments de droit international humanitaire de La Haye ou de Genève, notamment les articles 4 et 5 de la 3e convention, n'ont pas mentionné l'expression de combattant illégal, premièrement. D'autre part, le débat sur les francs-tireurs qui s'est initié dès la fin du 19e siècle a d'emblée eu une position relativement floue, avec des conflits à l'intérieur des différentes puissances. Et enfin, la clause de Mertens, qui a été introduite au fin 19e siècle, en 1899 et 1907, a toujours été entourée d'un grand flou, et cela malgré des évocations ultérieures. Je pense à son évocation dans le tribunal de Nuremberg, 10 février 48, dans l'affaire États-Unis contre Krupp, à l'affaire TPI grec du 8 mars 96, Martik, et malgré son évocation même récemment par le tribunal constitutionnel allemand, le 26 octobre 2004. Et lorsque la Cour internationale de justice s'est saisie de cette question, au tout début de son avis consultatif sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, c'était le 8 juillet 1996, elle n'a pas fourni davantage d'indications précises sur le sens à lui donner. Bref, vieille question, mais grand flou sur son traitement. Et c'est une vieille question aussi aux États-Unis, et on y reviendra ultérieurement. L'idée qu'il y ait un combattant ennemi légal ou légal, cela a déjà été traité dans la décision ex parte Quirin en 1942, mais en fait déjà durant la guerre de sécession, puisque le manuel militaire de l'Union, le code Liber, enjoint de traiter comme des combattants les civils confédérés qui s'étaient organisés en corps libres pour résister à l'avance des forces du Nord, même s'ils ne portent pas d'uniforme. En revanche, ils appliquent une justice sommaire aux individus qui ont commis des actes de violence clandestins ou de résistance à l'occupation. Et l'on sait que les États confédérés ont refusé de donner aux soldats noirs de l'Union le statut de combattants légaux. Bref, ce problème n'est pas nouveau, ni en droit international humanitaire, ni en droit américain. En revanche, et ce sera le troisième point de cette introduction, le contexte est, lui, profondément nouveau, et il est, à mon avis, marqué d'une triple incertitude, et c'est cette incertitude qui permet la position gênante de l'administration Obama sur cette question. Les incertitudes, d'une part, portent sur le droit international. Le terme de combattant renvoie, on le sait, au droit de participer directement à des conflits. Il permet d'être poursuivi pour des actes commis au cours d'opérations militaires dans le cas où ces derniers constituent des violations du droit international humanitaire, mais il assure réciproquement la protection de la troisième convention de Genève en cas de capture. Le terme de civil dénote quant à lui le fait de n'appartenir à aucune des catégories de personnes visées à l'article 4A, 1, 2, 3 et 6 de la troisième convention de Genève ou à l'article 43 du premier protocole dans 1977. Ce statut assure une protection générale face aux opérations militaires. Les civils ne peuvent être attaqués sauf en cas de levée en masse s'ils ne participent pas directement aux hostilités, ce qui les conduirait à devenir des cibles légitimes d'attaque. En première approximation, l'ennemi combattant illégal, c'est celui qui participe directement aux hostilités sans avoir le droit de le faire et qui, lorsqu'il est capturé, ne peut être classé comme un prisonnier de guerre. Mais il y a une incertitude à la fois sur cette qualification même et sur le régime à appliquer à cette personne-là. Ça, c'est pour la première incertitude. Seconde incertitude sur la doctrine même de la période Bush. Pourquoi ? La thèse générale est assez simple. Les talibans et autres combattants d'Al-Qaïda détenus dans la base navale de Guantanamo ne sont pas des prisonniers de guerre, mais des combattants ennemis illégaux. À ce titre-là, ils ne bénéficient pas du régime de protection des conventions de Genève. Ça, c'est la thèse générique, simple, de l'ennemi combattant illégal. Le problème, c'est que durant la période Bush, il y a eu une divergence ex ante entre une position relativement dure et une position plus souple, sur laquelle nous reviendrons. Et il y a eu enfin des divergences ex poste sur ce statut, notamment dues à l'action du Congrès et dues à l'action des cours, avec plus d'une centaine de décisions fédérales intéressantes, ce qui rend difficile d'avoir toute position nette sur ce que serait la doctrine de l'administration Bush. Et enfin, et troisièmement, il y a une incertitude à ce jour sur l'utilisation de la doctrine de l'ennemi combattant illégal par l'administration Obama. Il est, je crois, trop tôt pour statuer sur ce qu'elle sera. Président Obama s'est donné le 20 janvier un an pour régler le problème de Guantanamo. On sait qu'un certain nombre de décisions seront rendues au retour de l'été. Il aurait fallu faire cet exposé en novembre-décembre, mais on peut déjà fixer à ce jour une réelle incertitude. L'exposé Et je vais donc maintenant commencer, procédera en quatre temps. Et je vais aller très vite. Alors, premièrement, je vais revenir sur la pratique de l'ennemi combattant illégal dans l'administration Bush. Dans un deuxième temps, je vais tenter de montrer comment cette pratique a été théorisée. Dans un troisième temps, je vais réfléchir à la répudiation de cette pratique par l'administration Obama, répudiation rhétorique, mais pas seulement. Et quatrième temps, je vais montrer que cette répudiation est largement problématique. Premièrement, l'utilisation du concept d'ennemi combattant. Le précédent, je vous l'avais dit, 1942, je passe. Ce qui s'est passé en 2001, c'est la procédure suivante qui vous montrera comment on a mis en place, en pratique, ce concept au cœur de la guerre contre le terrorisme. Acte du 11 septembre. Le 18 septembre 2001, le Congrès des États-Unis adopte une résolution jointe, Authorization for Use of Military Force Against Terrorists, dans laquelle le président est, je cite, autorisé à utiliser toute la force nécessaire et appropriée contre les nations, organisations ou personnes dont il détermine qu'elles ont planifié, autorisé, commis ou aidé les attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 ou abrité de telles organisations ou personnes afin d'éviter tout acte futur de terrorisme international contre les ennemis, les États-Unis, par de telles nations, organisations ou ces personnes-là. Troisième temps, le décret militaire présidentiel du 13 novembre 2001, dans lequel le président Bush se fonde sur l'autorisation préalable que je viens de citer, du 18 septembre 2001, et décide pour, je cite, des individus qui peuvent être détenus et lorsqu'ils sont jugés, peuvent être jugés pour des violations des lois de la guerre et autres lois applicables par les tribunaux militaires. L'invasion en Afghanistan a conduit le conseiller juridique du président américain, Alberto González, à ne pas se conformer aux conventions de Genève en matière de détention des membres d'Al-Qaïda comme de l'ensemble des talibans. Assez rapidement, c'est donc esquissé une pratique où il y a ces tribunaux militaires, il est précisé que les détenus doivent être traités humainement et la durée maximale de leur détention n'a pas été précisée. Cette pratique-là me semble s'orienter autour de quatre axes majeurs qui sont les quatre foyers de sens, pour reprendre le terme de Frédéric Gros, de la doctrine, de la pratique de l'ennemi combattant illégal. La première question, c'est la qualification. Une lecture assez littérale de la troisième convention de Genève conduit à distinguer entre la protection offerte aux membres d'Al-Qaïda, qui clairement ne sont pas des ennemis de l'armée, et des prisonniers de guerre, et les talibans, dans la mesure où les talibans appartiennent aux forces armées régulières du gouvernement qui assurent alors, en 2001, le contrôle de l'essentiel du territoire afghan, rien n'interdit a priori à ce qu'ils puissent bénéficier du statut de prisonnier de guerre dès lors qu'ils satisfont aux quatre critères visés à l'article 4.2 de la troisième convention de Genève. Il y avait une ambiguïté dans les textes de rang conventionnel. L'administration Bush va l'annihiler et décider d'entendre le terme d'ennemi combattant illégal de façon extrêmement large, de façon à subsumer ces deux différentes catégories, les membres d'Al-Qaïda et les talibans, sous ce concept d'ennemi combattant illégal. Et pour vous donner une mesure de l'extension de cette catégorie, je vais citer l'affaire Parhat, P-A-R-H-A-T, V. Gates, d'avril 2008, dans lequel le département de la justice défend la légalité de la détention à Guantanamo durant 6 ans d'un citoyen chinois musulman ouïghour au nom de ce que ce dernier, donc Huzaifa Parhat, est un ennemi combattant illégal du seul fait de ses liens avec l'East Turkestan Islamic Movement. Il ne s'est donc pas battu contre les États-Unis. Il n'existe aucune preuve qu'il ait voulu le faire, si ce n'est un vague lien entre Al-Qaïda et les TIM. Mais le lien avec ce groupe militant suffit à le qualifier comme ennemi combattant illégal. Par rapport à cette conception très extensive de la catégorie d'ennemi combattant illégal, les cours fédérales ont adopté une approche largement processuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas qualifié la substance de cette qualification, mais se sont référés à la procédure qu'ils estiment juste, c'est-à-dire l'Order Establishing Combatant Status Review Tribunal de 2002, qui donne une définition qui permet une lecture aussi maximale de la catégorie. Deuxième point après la qualification, le contrôle de la qualification. Il y avait en fait, parmi les différents fondements, une double ambiguïté, en particulier dans les fondements constitutionnels. Je vous renvoie à la décision ex parte Quirin de 1942, Le président Bush s'est fondé sur cette décision par laquelle la Cour suprême avait approuvé l'utilisation de tribunaux militaires pour ces combattants illégaux. Mais encore eût-il fallu que ces combattants illégaux soient effectivement des combattants illégaux. Deuxième précédent qui n'est pas moins probant, c'est Johnson v. Eisentrager de 1950, par lequel la Cour suprême a décidé que les ennemis non américains qui ne sont pas encore entrés aux États-Unis ne sauraient avoir accès au système judiciaire civil américain. Et c'est pour cela que vous avez Guantanamo. La question est de savoir si Guantanamo sera ou non considéré comme faisant partie du territoire américain. Donc les deux précédents constitutionnels invoqués par la présidence ont, à mon avis, ces deux faiblesses-là. Cela étant noté, le contrôle de la qualification a suivi une histoire très particulière et à ce point complexe qu'elle a pris en fait les 8 ans. L'executive orders du 13 novembre 2001 pose le traitement. La décision Razul v. Bush en juin 2004, une décision de la Cour suprême, dans laquelle la Cour suprême statue sur l'autorité des cours fédérales américaines pour dire que les citoyens non américains détenus à Guantanamo sont illégalement emprisonnés. Suite à la décision Amdi v. Rumsfeld, qui était aussi de juin 2004, l'administration Bush a mis en place un Combatant Status Review Tribunal qui permet de déterminer le statut des détenus. En mars 2005, un an plus tard, plus de...
C'est trop long ?
D'accord. Vous avez plus de 520 personnes qui ont été vues par ce tribunal. D'accord. Non, c'est bon. D'accord. Et donc, il y a différents textes. Le DTA de 2005, Hamdan v. Rumsfeld de 2006 et Boumedien v. Bush de 2008. Suite à cette dernière décision, donc au bout de 7 ans, reste notamment à savoir si la Cour a autorité pour statuer sur les requêtes d'habeas corpus en vertu du DTA. En fait, cette histoire reste particulièrement complexe. Je vous aurais volontiers parlé de 4 décisions. Gates v. Bismullah, Al-Mari v. Pucciarelli, El Garani, et enfin une dernière décision de 2008 pour montrer que les cours fédérales ont introduit davantage de garanties, notamment au niveau des preuves, quant aux possibilités d'avoir recours aux cours. Troisièmement, le régime de la détention comme ennemi combattant illégal. Là encore, c'est un point qui a été l'objet de beaucoup d'évolutions. La grande ambiguïté venant en fait du Military Commission Act of 2006, dans lequel le président Bush dit qu'il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de grave breaches of the Geneva Conventions, mais il ne dit pas ce que c'est que ces grave breaches. On avait donc une ambiguïté sur la légalité du président américain. Beaucoup de rapports ont été émis par le Sénat, par le House Judiciary Committee, qui permettent aujourd'hui d'attester à des faits caractérisés de torture. Et ce qui est intéressant, c'est que Susan Crawford, qui était l'autorité qui gardait Guantanamo en tant que juge suprême sur la base, a reconnu l'utilisation de techniques de torture dans l'interrogatoire de Mohamed El-Khatani. C'était le 13 janvier 2009. Et dans l'affaire Jawad, en octobre 2006, un juge avait aussi retenu la caractérisation de torture. Et enfin, dernier point, le caractère secret. Et je reprendrai simplement le report card, qui est un rapport annuel sur les problèmes de classification, qui montre qu'on a multiplié par 8 le nombre de classifications comme secret défense durant la dernière décennie. Bref, on a 4 éléments sur la qualification, le recours, la détention et le secret qui, je crois, définissent la pratique de l'ennemi combattant illégal. J'entame mon second point, cette pratique a été soumise à une doctrine. Il me semble, et pour aller à l'essentiel, que cette doctrine a 2 difficultés. La première, c'est qu'elle doit statuer sur la violation du droit international. Alors, là, l'ennemi combattant illégal n'est pas protégé par la 3e convention de Genève. Une partie de la doctrine a soutenu qu'elle était couverte par la 4e convention de Genève. Et là, vous avez tout un tas de travaux sur les travaux préparatoires qui ont montré que la question n'était pas tranchée de la part du droit international sur l'applicabilité de la 4e convention de Genève. On peut soutenir que les garanties minimales de l'article 75 du premier protocole s'appliquent. Et en tous les cas, qu'il s'applique ou qu'il ne s'applique pas, s'il y a un doute sur le bénéfice du statut de prisonnier de guerre, ce n'était pas à l'exécutif américain de déterminer a priori et collectivement le sort des détenus capturés en Afghanistan, mais à un tribunal compétent, et cela au cas par cas. Ce tribunal doit être judiciaire dès lors qu'il s'agit de juger une personne qui n'est pas dotée du statut de prisonnier de guerre par un acte criminel commis au cours des hostilités. Tout ça, pour le dire rapidement, pour dire que la doctrine qui valide la pratique de l'ennemi combattant illégal ne peut pas être simplement internationale, mais, à mon sens, proprement constitutionnelle, et elle s'appuie sur les pouvoirs inhérents du président, en vertu de l'article 2 de la Constitution, et sur des problèmes d'intégration judiciaire du droit international, conventionnel et coutumier. Deuxièmement, dans cette deuxième partie, si tant est qu'on a une doctrine, elle est de rang constitutionnel, elle me semble qu'elle doit rendre compte d'une triple divergence. D'une part, il y a eu donc une divergence dans le temps, c'est-à-dire que la position de l'administration Bush a évolué entre le début et la fin, une différence entre les différents acteurs de l'administration Bush. Il y a ensuite une incohérence dans cette doctrine introduite par l'activité judiciaire, et on peut prendre les affaires Rumsfeld v. Padilla ou Hamdi, qui ont conduit la Cour suprême à ce que l'ennemi combattant illégal voit sa détermination comme telle assurée par un tribunal compétent, assorti de la présence d'un avocat, même s'il n'a pas de rang constitutionnel, c'est le problème de la décision Hamdi, et en vertu des règles constitutionnelles américaines de due process. De même, la Cour suprême, dans l'affaire Razoul, a introduit un certain nombre de garanties que l'on peut estimer être conformes aux conventions de Genève. Et enfin, l'action du Congrès a introduit, elle aussi, une évolution de la doctrine. Bref, il n'y a pas un corps simple, mais une divergence de vue, une divergence d'action des cours et une très forte action du Congrès. Cela pour, à mon avis, le résumer comme suit. S'il y a une doctrine du combattant ennemi légal, à mon avis, elle est triple. Il y a une doctrine faible, assumée par des personnes comme Jack Goldsmith, professeur à Harvard, mais qui a été directeur de l'office juridique du ministère de la Justice, ou par Colin Powell, par exemple. Une doctrine médiane, qui est celle assumée par le président Bush, et une doctrine beaucoup plus dure, assumée par Dick Cheney et John Hume. John Hume semblait intéressant, parce qu'il a été membre du legal advisor du ministère de la Justice. Il a eu une grande influence sur l'élaboration de cette catégorie-là entre 2002 et 2004 et 2003. Et il se trouve que c'est un professeur qui a écrit beaucoup de livres, The Power of War and Peace en 2005, War by Other Means en 2006, des articles de doctrine, Enemy Combatants and the Problem of Judicial Competence en 2007. C'est quelqu'un sur lequel on peut avoir un avis extérieur fiable, et je pense à The Terror Presidency de Jack Goldsmith, qui est à la fois professeur de droit et a été son collègue, et déploie dans cet ouvrage de 2007 la stratégie de John Hume. Bref, c'est quelqu'un qui a une thèse extrêmement dure, ferme, sur lequel on a suffisamment d'éléments pour dégager la doctrine. Or, l'objet de cette présentation, mais donc je le passe, était de prendre en compte une dizaine de mémos. Donc 5 ont été déclassifiés dans les 2 derniers mois, qui permettent aujourd'hui d'avoir une vue ferme, c'est-à-dire de 850 pages, sur le travail doctrinal de John Hume sur cette catégorie-là. Cette catégorie, cette doctrine de John Hume, qui est la doctrine extrême, elle porte sur un très grand nombre de questions. Oui, elle est à la fois de droit pénal, aussi de procédure pénale. Elle est essentiellement une doctrine de rang constitutionnel. Et pour aller vraiment à l'essentiel, elle est fondée sur la doctrine de Unitary Executive, qui est une conception du pouvoir unitaire de l'exécutif, qui se fonde sur 2 clauses, la vesting clause de l'article 2, qui dit que le pouvoir exécutif des États-Unis shall be vested in the President of the United States of America, et la Take Care Clause, the President shall take care that the laws be faithfully executed. C'est une théorie assez classique, c'est-à-dire qu'elle a été discutée par le père fondateur, avec des textes notamment très intéressants de James Madison dans les Federalist Papers, qui a elle aussi une version forte et elle aussi une version faible. C'est une doctrine qui dit que, notamment dans les périodes de péril, le pouvoir exécutif doit être assumé globalement par un seul homme, parce que le pouvoir exécutif est un. Ça a des conséquences absolument fondamentales, j'en citerai deux. D'une part, que le président a tout le pouvoir exécutif et qu'il peut donc contrôler intégralement ses officiers et ses agences de la branche exécutive, notamment la CIA qui pratique les interrogations. Et d'autre part, que le pouvoir judiciaire ne peut absolument pas poursuivre une partie de la branche exécutive parce que le pouvoir exécutif, qui est un, enfin, que le pouvoir judiciaire ne permet pas qu'une partie de l'exécutif attaque une autre partie du pouvoir exécutif, parce que le pouvoir judiciaire est un et qu'il ne peut donc pas s'attaquer lui-même. Cette doctrine... Oui, il reste 7 minutes. Donc, cette doctrine est extrêmement intéressante et elle a été largement débattue, mais je crois que c'est une doctrine constitutionnelle et c'est qu'une doctrine dont on peut discuter la légalité, mais qui permet de penser comment le président américain s'estime légitime à ce qu'on pourrait appeler violer les conventions, notamment de Genève. Rupture avec Obama, et c'est le troisième mouvement de cet exposé, en 2008, de répudiation générale de la guerre contre le terrorisme, avec les quatre ordres exécutifs du 20 et du 21 janvier 2001 sur Guantanamo, sur les techniques d'interrogation, sur la suspension des commissions militaires et l'affaire en particulier Ama al-Mari. Ce qui est important, c'est que 2 mois plus tard, à l'occasion d'une procédure pas forcément très connue, le 13 mars 2009, le ministère de la Justice, dans un mémorandum qu'il a introduit auprès du juge de district, donc c'est vraiment au niveau initial, John Bates, a explicité ne plus revendiquer le pouvoir de détenir des suspects terroristes en tant qu'ennemi combattant illégal, et ce, même si elle prétend avoir l'autorité large de détenir ceux qui font partie d'un réseau terroriste ou qui ont offert un substantial support à ses forces. Elle ne s'enlève pas cette compétence, mais en l'espèce, elle dit, la répudiation est telle qu'il n'y a même pas besoin de l'utiliser. En fait, et très malignement, l'administration introduit une autre définition de ce qu'est le combattant ennemi, illégal, sans employer ce terme. Et cette définition tourne autour de l'idée de soutenir de façon substantielle les forces talibanes ou d'Al-Qaïda. Alors, on peut montrer la complexité de cette position. Ce qui est très clair, c'est qu'elle a abouti, et je pense à 3 affaires intéressantes, a confirmé largement une partie de la doctrine Bush. Pourquoi ? Le 19 février 2009, le juge Léon du DC Circuit, qui est un de ces juges de première instance qui gère l'ensemble du contentieux de Guantanamo, il y a plus de 200 cas, il y a 3-4 juges qui gèrent une grande partie du contentieux, a utilisé la définition des ennemis combattants illégaux le 12 mars 2009. L'administration a donc confirmé qu'il ne s'agissait là que de la répétition d'une définition passée et qu'en aucun cas ce n'était une reprise, selon elle, d'une définition même de l'ennemi combattant illégal. Donc elle confirmait qu'il fallait bien ne plus utiliser cette notion. Mais on a 2 affaires. La première est Ahmed v. Obama, A-H-M-E-D v. Obama, 05-16-78, et l'autre, Hamlely v. Obama, H-A-M-L-I-L-Y v. Obama, 5-763. La première, je n'ai plus la date, je crois que ça doit être le 28 ou 29 avril. La seconde est le 19 mai, qui, dans lequel, dans un cas, la Cour, du fait de l'absence de qualification, conclut à l'illégalité de la détention. Et dans l'autre cas, le juge réfute la qualification faite par l'administration d'une personne comme liée au terroriste, alors qu'elle n'avait pas utilisé la définition. Pour le résumer, en substituant cette nouvelle définition à celle d'ennemi combattant illégal, les cours fédérales de temps en temps confirment et de temps en temps infirment. Mais donc, pour le résumer une dernière fois, ça veut dire que cette répudiation n'est qu'à moitié effective. Deuxième point important dans cette répudiation, c'est le problème du secret. Dans une affaire Jeppesen qui concernait les restitutions extraordinaires et savoir si les compagnies aériennes qui avaient participé au transport des personnes de Guantanamo dans des pays où ils ont été torturés avant d'être renvoyé aux États-Unis. Quelle était la responsabilité aérienne de ces décisions? L'administration Bush a eu un standard du secret plus important que celui de l'administration Bush. Et enfin, l'utilisation de la torture. Obama, naturellement, en janvier 2009, notamment le 22 janvier 2009, a expressément interdit l'utilisation de la torture dans les enquêtes et ordonné la fermeture immédiate de lieux de détention de la CIA dans son troisième executive orders. Le problème, c'est la décision Razoul, une décision connue, puisqu'elle a motivé la fameuse décision de 2004 de la Cour suprême, mais qui, suite à la décision Boumédienne de juin 2008, a eu un nouveau développement procédural. Un peu avant, le 11 juin 2008, je vais aller plus vite pour vous dire simplement que, en gros, dans Razoul v. Myers, du circuit court, l'affaire 06-5209, l'administration, et c'est là extrêmement choquant, a exhorté le circuit court à confirmer la décision de la qualified immunity pour les membres de l'administration et donc de ne pas attaquer Rumsfeld et consorts pour ces affaires, alors même que la torture avait été qualifiée. Bref, sur ces trois points, à la fois de définition, de secret et de répudiation de la torture, on voit que l'administration Obama, à ce jour, donc le 8 juin 2009, est dans une position intermédiaire. Quatrième et dernière partie, où va-t-on ? Un premier contentieux résulte sur où va-t-on ? C'est deux choses. À la fois, comment est-ce qu'on juge le passé ? Et dans cet aboutissement judiciaire de la doctrine de l'administration Bush de l'ennemi combattant illégal, on attend des conclusions fortes. Et deuxièmement, quel système alternatif à l'ennemi combattant illégal est-ce qu'on met en place ? Le jugement du passé a des voies un petit peu complexes. Il y a une décision Ashcroft v. Iqbal, qui est donc la dernière de la Cour suprême américaine, qui portait sur les roundups, donc les mises en détention, en centre administratif de rétention d'immigrés venant de pays, pour l'essentiel du Golfe, ne porte pas du tout ni sur des problèmes d'ennemis combattants illégaux, ni sur des problèmes de torture. Simplement, parce que simplement, on voit mal que la Cour assouplisse les standards de preuve qu'elle a utilisés dans cette affaire Iqbal, et cela conduirait plutôt à penser que la Cour suprême ne jugerait pas des membres de la doctrine ou de l'exécutif assez éloignés des personnes qui ont effectivement ou interrogé ou mis en place la politique de l'ennemi combattant illégal. Il y a eu un certain nombre d'affaires au niveau interne, je les passe, qui sont encore en cours. Donc on verra si les cours fédérales souhaitent ou non juger les personnes qui ont été partie prenante de cette politique des ennemis combattants illégaux. D'autres affaires se placent sur un plan proprement international. Et vous savez qu'en Allemagne, le 14 novembre 2006, une plainte avait été fondée sur l'idée de responsabilité de commandement pour complicité dans la torture et crimes contre l'humanité à Abu Ghraib et à Guantanamo Bay. Et le juge allemand se fondait naturellement sur United States v. Altstetter, l'affaire du procès de Nuremberg, à l'encontre des avocats du ministère de la Justice allemand, dont les mémorandums ont été à la base de la mise en œuvre du décret Nuit et Brouillard. Et une affaire, évidemment, en Espagne, avec le juge Balthazar Garzón Real, sur la compétence universelle de l'Espagne. Donc, premier point, pour juger le passé, à ce jour, je ne peux pas aller plus loin. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont été initiées et que la décision Iqbal, bien que relative à un autre problème, laisse penser que la Cour suprême n'ira pas très loin dans la responsabilité de la doctrine pour les pratiques effectives. Deuxièmement, quoi next pour la conception alternative d'Obama sur les ennemis combattants illégaux? 3 minutes, puisqu'il est 31. D'une part, sur Guantanamo, il faut lire le texte du 21 mai dernier d'Obama. Le jour même, Dick Cheney, à l'American Enterprise Institute, donnait un texte alternatif, et on avait une opposition très très forte entre la position classique et la nouvelle position d'Obama. Il y a en fait 5 cas différents à Guantanamo, les personnes qu'on peut libérer, les personnes qu'on peut juger de façon civile, les personnes qu'on doit juger de façon militaire, les personnes qui ne peuvent pas être jugées de façon militaire pour les problèmes de preuve, et les personnes qui, telles les Ouïghours, ne sont pas déclarés coupables par les commissions militaires, mais dont l'administration estime qu'ils sont trop dangereux pour être libérés. Alors Obama, dans ce discours du 20 avril, a mis en avant l'affaire Galiani, qui est extrêmement intéressante, puisque c'est un cas d'une personne qui était à Guantanamo et qu'on a pu faire juger par une cour civile. Le problème, c'est que ça cache sur Guantanamo la vraie difficulté, qui est comment faire juger ces personnes très dangereuses, et on revient vraiment à ce qu'on a vu ce matin, qui sont pourtant non coupables. C'est un dossier en cours et on pourra probablement revenir dans la discussion. Obama, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, pour les commissions militaires qui continuent à juger des personnes de Guantanamo, Obama a introduit, on était dans une position difficile puisqu'il avait dit durant la campagne qu'il était furieusement contre, et aujourd'hui il les perpétue. Il les perpétue, mais il introduit un certain nombre d'amodiations, je crois qu'elles sont mineures. Et le deuxième dossier important, à côté de Guantanamo, c'est naturellement Bagram, et je finirai par là, qui est un dossier particulièrement important. Pourquoi ? Bagram, c'est à 60 km de Kaboul, avec aujourd'hui 650 prisonniers. Jusqu'en 2004, c'était un centre de transit vers d'autres destinations, en particulier Guantanamo. En 2004, dans les trois décisions Hamdi, Razoul et Padilla, la Cour suprême américaine a donné le droit de recourir à l'habeas corpus à un prisonnier de Guantanamo. Et donc, il n'y a plus d'intérêt à mettre les personnes à Guantanamo. Donc l'administration américaine les a mis à Bagram. Or, la nouvelle administration, en particulier le 20 février dernier, a repris un argument de l'administration Bush qui consiste à dire que Bagram est essentiellement différent de Guantanamo parce que Bagram est dans un théâtre de guerre. Elle a refusé la possibilité à un juge civil de statuer sur le cas des détenus de Guantanamo, refusé le droit à un avocat. Et ce qui s'est passé, c'est que le 2 avril, le juge Bates du DC Circuit Court, la Cour de Columbia, a considéré que la position de l'administration était illégale. On se trouvait dans une position difficile où l'administration Obama, par son ministère de la Justice, a défendu explicitement la position Bush contre le juge qui déclarait que cela était illégal. La décision, la dernière en date, est celle du 1er juin, dans laquelle, en appel, le DC Circuit Court a confirmé que les trois affaires introduites sur lesquelles avait statué le juge Bates le 2 avril avaient été bien argumentées par le gouvernement, et donc il n'avait pas compétence. Donc je ne vais pas plus loin, je voulais simplement dans cet exposé trop factuel, et je vous prie de m'en excuser, dire que la position de la doctrine de l'ennemi combattant illégal était triplement difficile, à la fois parce qu'il n'y a pas qu'une doctrine, il y a plusieurs participants à cette doctrine, à la fois en tant que membre de l'exécutif et en tant que membre des trois pouvoirs. Premièrement, premier point. Deuxième point, que cette doctrine est en cours de constitution. La doctrine alternative de la peur d'Amama est en cours de constitution. Et troisièmement, que sur des points qui me semblent très importants, c'est-à-dire le secret, la capacité d'ester en justice devant une cour fédérale et la possibilité d'avoir un avocat, la position Obama n'est pas très claire pour des raisons largement diplomatiques. Le dossier des Ouïghours est fondamental, mais les dossiers des Ouïghours, ce sont des Chinois. Donc pour les négociations avec la Chine, on voit bien qu'il faut calmer ce dossier qui ne concerne que 17 personnes. Mais les Ouïghours sont au cœur du problème de Guantanamo et de la guerre contre le terrorisme, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été déclarées coupables et qui ont été estimées être rendues particulièrement dangereuses par les 7 années de détention. Et en bloquant ce cas-là, on est obligé de perpétuer la doctrine Bush sur des points fondamentaux que j'ai déjà cités. Je vous remercie.
Merci.